France Inter.
Voici le 13-14, Céline Aslo.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Les pelleteuses et les engins de terrassement vont pouvoir continuer à s'activer dans le Tarn, puisque la justice autorise la poursuite du chantier de l'A69 entre Toulouse et Castres, nouvel épisode, dans un feuilleton judiciaire qui n'est cependant pas terminé. On va voir que les militants écologistes envisagent maintenant de saisir le Conseil d'État. Les Ukrainiens ont-ils mené une attaque de drone sur une résidence de Vladimir Poutine ? Moscou accuse, Kiev dément, mais le Kremlin prévient déjà que cette attaque aura des conséquences sur les négociations de paix en cours, alors que des centaines de jeunes Ukrainiens sont arrivés à Paris pour participer à un grand rassemblement chrétien.
Ça montre ce désir profond de la part des jeunes Ukrainiens pour la paix, et ça montre aussi le désir de faire partie de la grande famille européenne.
C'est un reportage à suivre. On parlera aussi des États-Unis qui affirment avoir mené des frappes terrestres au Venezuela. C'est une première. De ce mouvement social qui prend de l'ampleur en Iran contre la vie chère. Et puis de ces 5 gendarmes blessés par un conducteur qui tentait de se soustraire à un contrôle. C'est le deuxième cas de ce genre en une semaine. Et cette fois, ça s'est passé dans le Finistère. La bataille du rail aura-t-elle lieu ? Bonjour Luc Chemelin.
Bonjour.
Vous allez nous parler de cet investissement massif de la compagnie italienne Trenitalia qui a bien entendu de concurrencer la SNCF.
Oui, et pour accélérer sa croissance, elle va investir au moins 1 milliard d'euros, notamment en France et au Royaume-Uni. Pour ça, l'opérateur vient de signer un accord avec le fonds américain Certares, un partenariat très stratégique. On vous expliquera pourquoi.
Tous les détails à suivre. Et puis, c'est l'un des événements culturels de cette fin d'année. Le ballet Casse-Noisette, revu et corrigé par Benjamin Millepied, fait salle comble cette semaine à l'Opéra de Nice, avant d'arriver à Paris la semaine prochaine. On en parle avec nos invités à 13h30 et avec vos questions 01 45 24 7000 et l'appli Radio France. Voilà pour le programme. C'est parti pour le 13-14.
France Inter.
Voilà presque 3 ans maintenant que la bataille se mène dans les prétoires à coups de recours, de suspensions et de reprises. Il y a quelques mois, les militants anti-A69 avaient remporté une victoire majeure. Le tribunal administratif de Toulouse avait annulé l'autorisation environnementale du chantier de l'autoroute. L'État, le concessionnaire, avait fait appel et la justice leur donne raison ce matin. Bonjour Célia Kinrich.
Bonjour Céline.
La cour administrative d'appel valide l'autorisation environnementale. Ça veut dire donc que les travaux vont pouvoir se poursuivre.
Oui, le feu reste au vert pour ce chantier entre Toulouse et Castres. C'est le ministère des Transports qui l'a annoncé en premier par mail ce matin. Philippe Tabarot s'est empressé de saluer les conséquences de cette décision pour la Cour administrative d'appel. Ce projet répond bien à une raison impérative d'intérêt public majeur. Il n'y a pas de solution alternative satisfaisante. Elle contredit donc le tribunal administratif qui avait fait arrêter les travaux en février. Ils avaient repris cet été. Aujourd'hui, la Cour d'appel reprend la main. Jean-Olivier, président des Amis de la Terre en Midi-Pyrénées, dénonce une décision politique.
Moi, j'étais devant la cour administrative d'appel depuis 9h. Il n'y a pas eu d'affichage de la décision et on l'apprend effectivement par un communiqué de presse du ministère des Transports. C'est la décision qu'on redoutait. On voyait bien que la balance de la justice ne pesait pas du côté des opposants à l'autoroute et du côté du droit de l'environnement. Et que c'est clairement des considérants économiques et des considérants politiques qui ont été retenus. Il faut juste constater les choses telles qu'elles sont.
De son côté, Atosca, le constructeur de l'autoroute, salue une décision qui va permettre de poursuivre sans ambiguïté le chantier. Les travaux vont d'ailleurs reprendre dès la semaine prochaine.
Mais on imagine, Célia, que les opposants, eux, ne vont pas s'arrêter là.
Non, ils vont se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État. C'est décidé, le feuilleton administratif n'est pas terminé. Et en plus, il y a une audience au pénal le 12 janvier pour examiner les débords du chantier de l'autoroute. Des plaintes ont été déposées car le constructeur l'admet lui-même, le chantier est plus gros que prévu d'au moins 45 hectares. Atosca prévoit toujours d'inaugurer son autoroute à l'automne 2026, mais les tribunaux n'en ont pas fini avec ce dossier à rebondissement, loin de là.
Et on suivra tout cela grâce à vous. Merci Célia Kilré, service Sciences, Santé et Environnement de France Inter. Quittons maintenant le chantier de l'autoroute du Tarn pour les routes du Finistère. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
On apprend aujourd'hui que 5 gendarmes ont été blessés samedi soir à Saint-Paul-de-Léon par un conducteur qui tentait de se soustraire à une opération de contrôle. 3 hommes sont d'ailleurs en comparution immédiate dès cet après-midi. Tous ont un casier judiciaire chargé et cette fois ils vont devoir s'expliquer, Emmanuel, sur cette course-poursuite rocambolesque.
Alors on est quand même parti d'un contrôle contrôle, d'un homme qui urinait sur une voiture garée à Saint-Paul-de-Léon, mais qui n'hésite pas à courir pour rejoindre ses amis et s'enfuir en voiture. Premier contresens sur une quatre voies en direction de Morlaix, puis une traversée d'un champ sur la commune voisine d'Invic. Là, on a alors une voiture en fuite avec plusieurs voitures de gendarmes à ses trousses, en pleine campagne, 11 gendarmes engagés au total. Le conducteur énervé décide de jouer aux autotamponneuses avec les voitures des gendarmes, tapées à plusieurs reprises, selon le procureur de Brest. Coincé, le conducteur tente de franchir un talus avant qu'une voiture de patrouille ne vienne le percuter et que ça se finisse dans le fossé. Selon nos informations, l'un des passagers a tenté d'agresser un gendarme avec une arme blanche avant qu'il ne soit maîtrisé à coups de taser, de pistolet à impulsion électrique. Il y avait 3 hommes dans la voiture, vous l'avez dit, et une femme après 2 nuits de garde à vue, en dégrisement alcoolique pour certains, dont le conducteur. Et on comprend alors la séquence spectaculaire. La voiture était volée et l'un des passagers faisait l'objet d'une fiche de recherche avec mandat d'arrêt après une condamnation pour association de malfaiteurs et violence aggravée.
Merci Emmanuel Leclerc. Et puis hier, on vous parlait de cette autre affaire, autre refus d'obtempérer dans le département des Vosges. 2 gendarmes à moto avaient été blessés par un conducteur qui tentait là aussi de prendre la fuite. Le suspect a été mis en examen hier soir et placé en détention provisoire. Toujours dans l'actualité judiciaire, on apprend qu'un jeune homme de 23 ans a été interpellé à Mont-de-Marsan. Il devrait être présenté à la justice dans les prochaines semaines, soupçonné d'une agression homophobe le jour de Noël. 2 hommes, un couple de quadragénaires, a porté plainte pour des coups et des insultes. Tous les deux souffrent de fractures. Les faits se sont déroulés, Manon Clavris, sur le parking de la résidence où vivent les victimes.
L'agresseur présumé, ivre, a manqué de percuter un poteau en voiture. Le couple, les 2 hommes de 37 et 48 ans, étaient sur leur balcon au premier étage de la résidence et ils disent à cet homme de faire attention à sa voiture. Il ne le supporte pas, les insultes commencent à fuser jusqu'à ce que l'une des 2 victimes descende. Et là, c'est l'acharnement. Il explique qu'il est saisi, projeté au sol, puis frappé à coups de poing et de pied et traîné à terre. Son mari accourt, il est lui aussi agressé physiquement. Des voisins appellent alors la police et quand les agents arrivent, le jeune homme les agresse eux aussi. Ils tentent même de mordre un policier. Finalement, après une nuit en cellule de dégrisement, il se calme. Il faut dire qu'il avait près de 2 grammes d'alcool dans le sang. Il reconnaît les faits et il ressort finalement du commissariat avec une convocation pour être jugé dans les prochaines semaines pour violence avec une circonstance aggravante, le caractère homophobe des insultes. Il n'avait jamais été condamné jusque-là.
Manon Clavril, la rédaction d'ici Gascogne, l'association Stop Homophobie dénonce cette agression et demande, je cite, une réponse judiciaire ferme à l'encontre de l'auteur présumé. Et puis une autre agression à Paris. Cette fois, un homme a été interpellé après avoir blessé légèrement 2 personnes dans le métro. C'était hier à la mi-journée. Selon les informations de nos confrères d'ici par Île-de-France, il était muni d'un marteau. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre. Des températures négatives, du vent, du verglas, de la neige, même par endroits, cette dernière semaine de l'année 2025. Est une vraie semaine hivernale. On va faire le point d'ici une vingtaine de minutes sur les prévisions de ces prochains jours. Et se réchauffer est devenu l'obsession de celles et ceux qui vivent à la rue. Vous avez pu le constater, Faustine Calmel au jardin d'Éole, c'est dans le 19e arrondissement de Paris, jardin du public où ce matin, comme tous les jours de l'année, une distribution de petits déjeuners était assurée par des bénévoles.
Ils arrivent par petits groupes, 2 ou 3 hommes, capuches jusqu'aux yeux, mains au fond des poches.
Ça va ? Oui, va bien.
Hassan, éthiopien, passé par l'Allemagne, a dormi dans un campement sous le métro aérien, tout proche, juste avec sa veste, explique-t-il. Sur un matelas. Rien d'autre. Alors il serre son gobelet en carton, un peu de fumée s'en échappe. Bénédicte, elle, s'est attablée un peu plus loin.
On n'est pas encore tous SDF, enfin bon, je l'ai été, mais bon.
Seule femme à venir à cette distribution, après la rue, elle a un toit depuis quelques temps, mais pas de chauffage.
Bah ça, la tartine, il y a soit confiture, soit Nutella, et puis il y a thé au café à volonté.
La gamelle, en premier, monsieur, vous avez votre petite assiette qui vous attend. Merci. Bon appétit, à tout à l'heure.
Merci.
Je vous en Christine prie. Fait partie des bénévoles.
Ils ont vraiment besoin de se réchauffer l'intérieur du corps, quoi. C'est terrible et ça se voit effectivement sur eux.
Des bienfaits qu'elle sait très éphémères.
Ça va vite s'estomper parce qu'ils vont traîner dans le quartier pratiquement toute la journée ou aller d'une distribution alimentaire à l'autre. Mais non, ça ne va pas durer longtemps.
Alors comme les autres, elle sera là demain pour donner chaque jour un peu de chaleur à plus d'une centaine de sans-abri et mal logés.
Merci beaucoup.
Reportage dans le 19e arrondissement de Paris, signé Faustine Calmel. Une réunion, une de plus, pour tenter de faire avancer la paix, pour tenter de faire entendre la voix des Européens. Plusieurs dirigeants des 27 se sont entretenus ce matin pour évoquer la guerre en Ukraine et les dernières négociations qui ont eu lieu ce week-end en Floride. La Maison-Blanche estime que les pourparlers en sont à leur phase finale. Le président Zelensky, lui, insiste sur les points de désaccord, sur la question territoriale notamment. Et c'est dans ce contexte que Moscou accuse Kiev d'avoir mené une attaque sur la résidence de Vladimir Poutine, ce que l'Ukraine dément fermement. Bonjour Eric Biégalin.
Bonjour Céline.
Alors que sait-on de cette attaque ?
Eh bien, pour le moment, pas grand-chose à vrai dire. En fait, d'attaque, il s'agit surtout d'accusations et de déclarations, celle de Vladimir Poutine assurant Donald Trump hier au téléphone que sa résidence de Valdaï avait été attaquée. Et celle de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, évoquant publiquement la même attaque. Mais force est de constater que cette attaque n'a laissé absolument aucune trace. L'Institute for the Study of War, think tank américain qui suit la guerre en Ukraine de très très près, remarque par exemple qu'aucune vidéo ou aucun rapport local faisant état d'un bombardement sur Valdaï n'a pu être trouvé. Le média russe d'opposition The Intercept précise que ni le gouverneur régional ni le ministère de la Défense n'ont signalé d'attaque d'une ampleur comparable dans la région. Quant au site d'information russe d'opposition Sota News, il relève une contradiction entre les affirmations de Sergueï Lavrov affirmant que 89 drones ukrainiens visant Valdaï avaient été abattus, alors que le rapport de la défense antiaérienne russe ne mentionne, lui, l'interception que de 18 drones cette nuit-là et pour toute la région. Quant aux habitants voisins de la résidence de Valdaï, ils ne signalent aucune activité antiaérienne durant la nuit du 28 au 29, ni sirène, ni tir de défense solaire. Si une attaque a bien eu lieu, elle semble en tout cas n'avoir réveillé absolument personne du côté de Valdaï.
Et de leur côté, merci Eric Biégalin, les autorités ukrainiennes viennent d'ordonner l'évacuation de 14 villages dans le nord du pays en raison de frappes russes récurrentes. Et pendant que la guerre se poursuit donc et que les négociations de paix patinent, les Ukrainiens tentent de trouver de l'espoir et ça passe par la prière pour certains d'entre eux. Un millier de jeunes Ukrainiens participent en ce moment à un grand pèlerinage à Paris. Ce sont les 48e rencontres de la communauté de Thésée. 15 000 jeunes chrétiens venus de toute l'Europe sont rassemblés, notamment pour parler de la paix. Et Timur Öztürk les a rencontrés lors d'une messe à l'église Saint-Sulpice à Paris.
Anastasia, étudiante de 21 ans, arrive tout juste de Kiev et à Paris, elle rencontre des jeunes chrétiens venus de toute l'Europe.
C'est l'occasion de témoigner de ce qu'il se passe en Ukraine.
Avec un message, ne nous oubliez pas. Anastasia est accompagnée de dizaines de ses compatriotes. Ils chantent, participent à l'office, accueillis par le frère Matthew, prieur de la communauté de Thésée.
Ça montre ce désir profond de la part des jeunes ukrainiens pour la paix. Et ça montre aussi le désir de faire partie de la grande famille européenne.
Lui-même est de retour de Zaporizhia, en Ukraine.
Il y a souvent les coupures d'électricité. On a passé Noël dans le noir. Il y a des sirènes qui résonnent tout le temps.
Ici, à Paris, des ateliers sont organisés pour parler de la paix, du rôle que peuvent jouer les différentes églises. Mais sans représentants de l'église orthodoxe russe, trop proche du Kremlin, dénonce Ivanka, une Ukrainienne de 32 ans.
L'église orthodoxe russe est une organisation politique. Ils rendent plus de comptes à leur gouvernement et à leur président qu'à Dieu.
Elle prie pour la paix, comme pour ses amis qui se battent sur le front.
Reportage de Timur Öztürk à l'église Saint-Sulpice à Paris. La guerre en Ukraine qui est au cœur de l'agenda diplomatique des États-Unis. On en parlait tout à l'heure avec Donald Trump qui joue les médiateurs depuis son retour à la Maison-Blanche. Mais un autre pays occupe beaucoup l'administration américaine. C'est le Venezuela. Des frappes ont été menées ces derniers mois par les États-Unis sur des navires vénézuéliens soupçonnés de transporter de la drogue. Et une marche supplémentaire a été franchie aujourd'hui. Les États-Unis assurent avoir réalisé des frappes terrestres. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
L'objectif, c'est toujours de pousser vers la sortie le président Nicolas Maduro, accusé de soutenir le trafic de drogue.
Oui, c'est l'argument en tout cas avancé par le président américain pour justifier ses attaques. On parle jusqu'à présent d'une trentaine de frappes contre des embarcations de trafiquants présumés, faisant près de 107 morts dans les Caraïbes et le Pacifique. Dans le cas présent, on ne connaît pas exactement le lieu de l'intervention américaine. On ne sait pas non plus si elle a été menée par la CIA ou par l'armée, mais selon CNN et le New York Times, eh bien, il s'agirait d'une frappe de drone qui a visé un débarcadère isolé utilisé par le gang de narcotrafiquants vénézuéliens de Tren de Aragua pour stocker de la drogue et la charger sur des bateaux en vue de son expédition. Toujours selon ces mêmes médias américains, l'opération n'aurait pas fait de victimes. On peut ajouter que parallèlement, l'armée américaine a par ailleurs fait état d'une nouvelle frappe dans l'est du Pacifique contre un navire impliqué dans des opérations de narcotrafic. Lors de cette attaque, deux personnes auraient été tués. De son côté, le gouvernement vénézuélien n'a fait aucun commentaire officiel sur le sujet.
Merci Nathan Charbonnier de la rédaction internationale. Intéressons-nous maintenant à l'Iran, où un mouvement social est en train de prendre de l'ampleur. Et c'est avec vous que l'on va en parler. Valérie Crova, bonjour.
Bonjour.
Mouvement de protestation contre la vie chère qui a commencé dans le bazar de Téhéran, qui est en train de s'étendre à d'autres villes. Alors, quelles sont les raisons de cette colère?
L'inflation galopante provoquée par une dépréciation de la monnaie iranienne, le rial, par rapport au dollar, dont le taux explose. C'est la conséquence des sanctions internationales rétablies par l'ONU fin septembre, après l'échec des négociations sur le programme nucléaire iranien. Le rial a atteint dimanche son plus bas niveau historique. Les commerçants disent ne plus pouvoir acheter de nouvelles marchandises et qu'ils risquent de perdre beaucoup d'argent. Le fait que le mouvement ait commencé dans le grand bazar de Téhéran est symbolique. C'est le poumon économique de la capitale iranienne et le baromètre aussi du mécontentement qui s'est propagé à plusieurs villes comme Shiraz ou Ahvaz, où des jeunes ont scandé des slogans hostiles au régime des mollahs, tels que « les Iraniens préfèrent la mort à l'humiliation ».
Alors on voit, Valérie, que le président iranien tente de calmer cette colère. Il a accepté la démission du chef de la Banque centrale. Il appelle à écouter ce qu'il appelle des revendications légitimes. Est-ce que ça veut suffire?
Alors vous savez, d'après ce que nous disent les Iraniens sur place, le ras-le-bol est à son comble. Le pays a dû affronter en 2025 de multiples crises. La guerre de 12 jours lancée par Israël cet été, mais aussi la crise de l'eau. L'Iran a connu l'une des pires sécheresses depuis des décennies. Les autorités ont annoncé que demain, les services administratifs, les organismes publics, les centres commerciaux, les écoles, les universités, les établissements d'enseignement supérieur resteront fermés officiellement pour économiser l'énergie en raison du grand froid qui règne actuellement en Iran. Mais on est en droit de se demander si ce n'est pas plutôt de peur que les manifestations ne se propagent.
Merci Valérie Crova. De son côté, l'Inde affirme être devenue la quatrième économie de la planète devant le Japon. Le gouvernement s'appuie sur son bilan économique de fin d'année et se vante d'afficher la croissance la plus rapide au monde. L'Inde espère dépasser l'Allemagne, qui figure à la troisième place du classement, et ce, d'ici 2030.
France Inter, le 13-14. Céline Asselot.
C'est donc sans budget que la France s'apprête à passer à l'année 2026. Faute d'accord au Parlement, une loi spéciale va s'appliquer à partir de jeudi, le 1er janvier, un texte à minima pour continuer à lever l'impôt, à assurer la vie de la nation, en attendant que l'examen du projet de loi de finances reprenne entre les députés et les sénateurs. Pas de mesures nouvelles donc dans cette loi spéciale, mais de potentiels effets pervers, notamment sur les impôts. Bonjour Alexis Morel.
Bonjour Céline.
D'où ces annonces du gouvernement ce matin, à titre exceptionnel, certains crédits d'impôt qui auraient dû s'arrêter net, vont être prolongés.
Oui, c'est le cas des pourboires qui, faute de budget, risquaient de devenir imposables. Et bien finalement, l'exonération fiscale est prolongée. Même chose, par exemple, pour les employeurs qui prennent en charge les abonnements transport de leurs salariés. Et puis, il y a toute une série de mesures fiscales qui ne peuvent pas entrer en vigueur pour l'instant, mais que le gouvernement s'engage à rendre rétroactives au 1er janvier, même si le budget est finalement voté beaucoup plus tard. On parle là de réduction d'impôts en faveur des agriculteurs, du logement social, des Outre-mer, ou encore le doublement du crédit d'impôt dit Coluche pour les dons aux associations. Bercy parle de mesures prioritaires qui sont aussi les plus consensuelles dans la discussion budgétaire.
Mais cette liste, Alexis, qui est dressée par Bercy, elle est loin d'être exhaustive.
Rien, par exemple, sur le barème de l'impôt sur le revenu qui, faute de budget, ne peut pas être revalorisé en fonction de l'inflation, ce qui pourrait rendre imposables 200 000 foyers supplémentaires, en tout cas si le budget n'était pas voté avant le début de la campagne de déclaration au printemps. Ce qui suscite d'ailleurs des réactions dans l'opposition. Ce matin, le président LFI de la Commission des Finances à l'Assemblée, Éric Coquerel, dénonce une interprétation totalement restrictive de la loi spéciale et une forme de pression sur les parlementaires.
Alexis Morel, service économie de France Inter. Quant à l'agence France Trésor, qui est chargée de la gestion de la dette de l'État, elle vient d'annoncer que la France allait emprunter 310 milliards d'euros l'année prochaine sur les marchés. Là aussi, c'est grâce à la loi spéciale. C'est un montant record, mais la somme annuelle sera susceptible d'être ajustée si nécessaire, dit l'agence, en fonction du budget lorsqu'il sera voté. Faire des économies sans pénaliser les Français, on a donc compris que c'était le difficile exercice d'équilibriste de ce projet de loi de finances. Et c'est sans doute aussi pour cela que l'exécutif veut donner le bon exemple. Bonjour Sonia Gobry.
Bonjour.
Ainsi, Matignon a décidé de renoncer aux traditionnelles cartes de vœux de bonne année.
Eh oui, pour Sébastien Lecornu, tout le monde doit faire des efforts et ça commence au sommet de l'État. La consigne est passée à tous les ministères. Le gouvernement vise 300 000 millions d'euros d'économies sur le budget communication en 2026, donc pas seulement sur les cartes de vœux. Cette mesure est surtout symbolique et c'est justement ce qui agace Henri Condamine, le patron d'Editor, leader du marché de la carterie.
S'en prendre à la carte de vœux pour vouloir parler d'économie budgétaire de la France, c'est totalement incompréhensible. On parle de 44 milliards d'économies à faire en France et on estime, nous, le budget des cartes de vœux de chaque ministère à un peu plus de 10 000 euros. C'est peut-être pas par là qu'il fallait commencer, hein.
Alors il a écrit à tous les ministères pour leur proposer de leur offrir au total 170 000 cartes de vœux. Seul celui de la culture a répondu pour décliner cette proposition. Qu'importe, il veut surtout passer un message. Les Français sont attachés aux cartes de vœux. Laurence Bussière, présidente de l'Association des maires ruraux de l'Eure, confirme.
C'est un peu émotionnel d'avoir une carte des ministères. Ça fait un peu l'importance qu'on a en tant qu'élu de terrain, quoi. On apprécie, enfin moi j'appréciais. C'est une belle carte, enfin c'est quelque chose qu'on gardait dans nos archives.
Mais elle comprend la décision du Premier ministre. D'ailleurs, elle-même a arrêté d'envoyer ses 600 cartes de vœux annuelles, une économie d'environ 2000 euros pour l'Association des maires ruraux de l'Eure, à une période, dit-elle, où chaque euro compte.
Merci Sonia Gobry, service politique de France Inter. Le gouvernement qui a décidé par ailleurs d'offrir quelques années de sursis aux gobelets en plastique. L'interdiction qui devait entrer en vigueur le 1er janvier prochain a été repoussée à 2030 en raison, je cite, d'un manque de faisabilité technique. Les ministères de la Transition écologique et de l'économie veulent donner plus de temps à la filière pour trouver comment remplacer le plastique dans les gobelets jetables. Ceux qui même prendront le train, vous vous souvenez peut-être de ce titre de film qui date des années 90. Oui, mais avec quelle compagnie? Voilà ce qu'on pourrait ajouter en 2026. Car la SNCF, qui a été très longtemps seule sur le marché français, est de plus en plus concurrencée, à commencer par Trenitalia. C'est l'opérateur historique italien qui opère depuis 4 ans en France et qui cherche à gagner du terrain. Luc Chemla, on vous retrouve. Le groupe vient de signer un accord avec le fonds d'investissement américain Certares et annonce un investissement de plus d'un milliard d'euros.
Ah oui, axé notamment sur la France et le Royaume-Uni. L'objectif est de consolider sa position de deuxième opérateur ferroviaire à grande vitesse dans l'Hexagone et d'accélérer sa croissance en renforçant notamment ses liaisons internationales. Trenitalia veut ainsi se lancer sur le Paris-Londres d'ici 4 ans et donc concurrencer l'Eurostar. Pour y arriver, le groupe va étendre sa flotte à minimum 19 rames et développer un nouveau site de maintenance près de Paris. Bien qu'il ne soit pas encore rentable en France et ne représente qu'1% du marché, l'opérateur ne cesse de monter en puissance. Il s'est lancé cette année sur la ligne Paris-Marseille, propose depuis décembre 14 allers-retours entre Paris et Lyon contre 9 auparavant et a doublé sur un an son nombre total de voyageurs. En s'alliant avec le fonds américain Certares, Trenitalia va aussi pouvoir nouer des liens avec des clients de son portefeuille, dont certains sont très stratégiques, notamment les agences Havas Voyage ou encore Selectour.
Alors vous parliez, Luc, du Paris-Londres. C'est visiblement une ligne qui suscite particulièrement l'intérêt des compagnies ferroviaires.
Ah oui, on peut le dire. Eurostar, qui est pour l'instant seul à opérer, va faire face à une concurrence féroce. Le plus avancé sur ce dossier, c'est le britannique Virgin, propriété du milliardaire Richard Branson, qui vient d'obtenir l'accès à un dépôt ferroviaire stratégique pour une future exploitation de la ligne. Mais l'Espagnol Evolyn et le Britannique Gemini veulent aussi se lancer. La société qui gère le tunnel sous la Manche souhaite-elle attirer de nouveaux opérateurs, car l'infrastructure peut accueillir jusqu'à 1000 trains par jour, alors qu'il n'y en a que 400 actuellement.
Et puisque l'on parle de l'Eurostar, merci Luc Chemla, sachez que le trafic est très perturbé en ce moment sur la liaison entre Paris et Londres, avec plusieurs heures de retard pour les trains partis ce matin. La compagnie évoque un problème d'alimentation électrique dans le tunnel sous la Manche, ainsi qu'un problème technique sur un train. Eurostar conseille aux usagers de reporter leur voyage s'ils le peuvent et d'éviter de se rendre en gare à Londres comme à Paris. Elle était à son lancement la première chaîne de télé au monde entièrement dédiée aux jeux vidéo. 27 ans après sa création en 1998, la chaîne Game One va cesser d'être diffusée demain, décision du groupe Paramount qui détient la chaîne, pourtant encore regardée par 3 millions de téléspectateurs chaque mois. C'est une chaîne, Olivier Bénis, qui a marqué plusieurs générations de gamers français avec des émissions, des animateurs emblématiques et puis aussi, Olivier, quelques concepts révolutionnaires.
7 septembre 1998, le fameux logo fusionnant un G et un 1 apparaît pour la première fois à l'écran. Le concept de Game One ne parlait que de jeux vidéo, ou presque, inédit, voire un peu fou.
À cette époque-là, si tu veux voir des images de jeux vidéo qui bougent, il n'y a que nous. Les chaînes classiques, TF1, France 2, etc., ne s'intéressent pas aux jeux vidéo.
L'animateur Marcus en deviendra l'un des piliers historiques.
On s'est retrouvé avec une grille à remplir. Il fallait trouver, imaginer des programmes. Donc moi, j'ai proposé Level One, qui était tout simplement l'idée de jouer en parlant au spectateur comme s'il était assis à côté de moi sur le canapé.
Salut, c'est Marcus. Dans le prochain Level One, je jouerai à Soul Calibur avec Christophe Lambert qui est en train de s'entraîner comme un lâche.
Aujourd'hui, tu peux faire ça avec ton téléphone portable. Il y a des millions de gens qui streament, mais nous, on était les premiers à proposer ça sur Game One dès 98.
Autre émission culte, le talk show Team Game One, présenté par Julien Teloup et dont la dernière en direct a été diffusée début décembre.
Merci à tous pour ces moments de joie que nous avez donnés. Le public a toujours été là et je vais donner aussi toutes mes forces pour faire revivre Game One, d'une manière ou d'une autre. Oui. On peut applaudir tout le monde.
Car Marcus en est sûr, les joueurs aiment cette chaîne et ils les suivent.
Au moment où on a annoncé l'arrêt de Game One, on a reçu des centaines, des milliers de messages de gens qui disaient à quel point ils étaient attachés à Game One. Et vous avez bercé mon enfance, mon adolescence.
La suite, ce sera peut-être sur Twitch. Après tout, son concept doit beaucoup aux audaces de Game One.
Les précisions étaient signées Olivier Bénis. Allez, on quitte le canapé, la télé et Twitch pour prendre l'air maintenant dans le Vercors. Si vous êtes en vacances et que vous cherchez une activité originale et sportive aussi, eh bien pensez aux balades avec des chiens de traîneau. Alors certes, on est assis dans le traîneau, mais c'est quand même assez tonique. Vous allez l'entendre, Robin Montel a fait une balade au col de la Chaux dans le traîneau de Sébastien Meurant en compagnie de ses 12 chiens du Groenland.
Bon, les chiens sont impatients depuis tout à l'heure. Ils attendent juste le top départ de Sébastien. Au démarrage, il court jusqu'à 30 km/h.
Ça va partir.
Allez.
Ah oui. Alors là, on va attaquer une montée de 1 km avec 100 mètres de dénivelé. Donc c'est une belle pente. Alors quand on est assis, on s'en rend pas trop compte.
La balade fait 6 km. Pour faire du chien de traîneau, oui, il faut qu'il y ait un peu plus de 25 cm de neige pour pouvoir freiner.
Là, en fait, je suis un peu comme sur une trottinette, on va dire, en train de soulager mon poids du traîneau en patinant régulièrement.
C'est possible d'en faire tout l'hiver tant qu'il y a assez de neige. Sinon, il faut rajouter des roues au traîneau le reste de l'année.
Dans un traîneau, quand on est assis, on va mettre maximum 180 kg de passagers. Il faut additionner le poids de tout le monde, être en dessous de 180 kg. Oh, stop!
Tous les ans, Sébastien et ses chiens transportent des centaines de personnes dans les montagnes du Vercors.
Reportage de Robin Montel d'ici Dromardèche. Et puis je vous parlais tout à l'heure des soucis de trafic sur l'Eurostar. La compagnie annonce à l'instant la suspension de tous les trains entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles. Et ce jusqu'à nouvel ordre. 13h27 sur France Inter. Restez avec nous dans la prochaine demi-heure. On jettera un coup d'œil aux prévisions météo. Toujours du froid, du soleil aussi, nous dira Patricia Charbonnier. On accueillera ensuite nos invités pour évoquer le spectacle de danse le plus attendu de cette fin d'année. C'est Casse-Noisette, version pop, revue et corrigée par Benjamin Millepied. C'est en ce moment à l'Opéra de Nice, avant Paris la semaine prochaine. Le directeur du Ballet de Nice et le créateur des décors de Casse-Noisette sont avec nous. N'hésitez pas à intervenir. 01 45 24 7000. Une semaine dans leur vie nous emmène à Dijon. Aujourd'hui, on revient sur le festival de street art qui transforme la ville tous les ans désormais. C'est un reportage signé Victor Vasseur. 13h50, c'est la France. Bonjour Cyril Petit.
Bonjour Céline.
Du quotidien Ouest France, les petites histoires qui en disent long. Tous les mardis avec vous, où allez-vous nous emmener aujourd'hui?
Eh bien, Céline, de Glomel dans les Côtes d'Armor à Bergerac en Dordogne, en passant par Thaon-les-Vosges. On finit 2025 avec des petites histoires d'animaux.
J'ai hâte. Et puis, on poursuit notre semaine spéciale Alain Souchon. Dans C'est une chanson, aujourd'hui, le comédien Jean-Paul Rouve est au micro de Frédéric Pommier et il a choisi le bagad de l'âne billet.
Peut-être qu'elle m'a aidé, cette chanson. Parce que peut-être qu'en fait, ça a été comme une lumière, de temps en temps, qui s'allumait. Quand on veut abandonner, par exemple. Peut-être que j'avais un petit bout de cette chanson qui me disait non, 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 non.
Le bagad de l'âne Biwe, évidemment, choisi par Jean-Paul Roux. Vous encontrez ça tout à l'heure.
Premier étage. Troisième étage.
Il y a des chiffres qu'on n'aime pas.
On descend où ?
Au 13e.
Cinquième étage.
Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme 5%, c'est le taux d'intérêt de votre livret plus pendant les 3 premiers mois de son ouverture. Et c'est seulement chez Fortunéo. Fortunéo, j'aime ma banque.
Ouverture avant le 29 janvier jusqu'à 100 000 euros de versement limité à un livret plus par personne. Taux annuel brut contractuel de 1,60% et fiscalité en vigueur susceptible d'évolution. Autres conditions sur fortunéo.fr.
13h28, la météo.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour Céline.
Alors du soleil, du froid, hein, toujours pour cet après-midi.
Oui, la situation météo se répète. On a toujours cette situation anticyclonique bloquée. Alors avec du soleil cet après-midi, c'est quand même une belle journée d'hiver. Avec quelques nuances quand même, on a un ciel un petit peu plus gris et plus humide du côté de la Manche avec quelques ondées. Encore de la grisaille persistante cet après-midi sur le Poitou-Charentes, le Centre-Val de Loire et le Lyonnais. Et de la grisaille avec en plus un petit peu de bruine sur le nuage bas sur le sud-ouest. Et dans le sud-est, là, c'est vraiment une très belle journée, mais avec de fortes rafales de Mistral et de Tramontane, avec des températures toujours bien en dessous des normales de saison. 3 degrés cet après-midi à Nancy, 4 à Bordeaux, 5 à Paris et à La Rochelle, 6 degrés seulement à Marseille, 10 degrés à Biarritz et encore 16 en Corse.
Et demain, ben, pas beaucoup de changements pour ce jour de réveil.
Oh là,
toujours du froid.
France,
hein,
nous annonce même encore une baisse des températures.
Plus froid encore. Oui.
Avec des gelées quasi généralisées demain matin, de fortes gelées en particulier entre le nord-est, le centre et le sud-ouest du pays. Deux choses à retenir pour les prochains jours. La nuit de la Saint-Sylvestre s'annonce très froide et le changement de temps va se faire à partir de la fin de la semaine avec le retour de la grisaille sur la moitié nord et un temps plus humide avec sans doute de la neige pour vendredi sur le quart nord-est.
Ah ben vous viendrez nous en reparler. Merci beaucoup Patricia Charbonnier.
France Inter, le 13-14, Céline Asselot.
Petite fille qui reçoit un drôle de cadeau le soir de Noël, des jouets qui s'animent, des soldats en bois, des souris à clé, et puis la musique sublime de Tchaïkovski depuis sa création à Saint-Pétersbourg en 1892. Casse-noisette est le ballet de Noël par excellence qui peut toucher tous les spectateurs, les plus jeunes comme ceux qui ont quitté l'enfance depuis un petit moment. Et c'est une version moderne, une version pop acidulée que l'Opéra de Nice propose en ce moment, chorégraphiée par Benjamin Millepied et qui arrive très bientôt à la scène musicale près de Paris. On va en parler avec nos invités et à commencer par vous, Pontus Lidberg. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du ballet de l'Opéra de Nice en direct avec nous depuis Nice. Comment il est né ce projet d'abord? Expliquez-nous. C'est pas un peu vertigineux justement d'essayer de revisiter un classique parmi les classiques?
Bah en fait, cela faisait très longtemps que Casse-Noisette n'avait pas été joué à Nice et donc. Autant comme nouveau directeur, je pensais qu'il était enfin venu le moment. Et j'ai invité Benjamin Millepied parce que j'ai pensé aussi que mon but, c'est de faire venir un public très large. Et Casse-Noisette, c'est un classique, mais qu'on a peut-être dans la mémoire...
mémoire collective
Exactement, mais moi je voulais quand même donner l'invitation à un chorégraphe qui change un peu les choses. Mmh. Et avec Benjamin, c'est toujours quelque chose de frais dans son travail. Donc,
parce que c'est un ballet, c'est vrai, ouais, qui a été revu, qui a été relu par de très nombreux chorégraphes. Je vais citer Balanchine, Béjart, Nourieff, et il y en a d'autres. Hein. Est-ce que cette version de Benjamin Millepied que vous accueillez chez vous à Nice, elle s'inscrit dans cet héritage ou est-ce que c'était quelque chose que vous avez voulu très différent?
Bah, en fait, moi j'ai vu... plusieurs Casse-Noisette, bien sûr. Et en fait, moi, je vois un peu la version de Balanchine dedans. Même si le travail de Benjamin Millepied il est très différent, je vois quand même des liens entre les deux. Et c'est pas tout à fait contemporain. En fait, il y a des, il y a aussi des moments très classiques dedans. C'est un peu entre les deux, ou les deux, on peut dire. En même temps, il faut dire que le décor et les costumes de Paul Cox donnent pour cette production une touche complètement différente parce que c'est vraiment comme entrer dans un livre de Paul Cox.
Ben vous me faites une transition toute trouvée, donc, Pontus Lidberg, justement pour accueillir, oui, Paul Cox. Bonjour et bienvenue à vous également.
Okay.
Bonjour.
Puisque vous êtes peintre, dessinateur, et que c'est vous donc qui avez créé ces décors que l'on voit sur scène, qui sont aussi, qui ajoutent beaucoup à la modernité, on va dire, de la relecture de Casse-Noisette, beaucoup de couleurs pop acidulées. Est-ce qu'il y avait une émotion de petit garçon de votre côté à se saisir de l'univers de Casse-Noisette?
Oui, je pense qu'on peut vraiment dire ça. C'est-à-dire que
Quand on a commencé à travailler avec Benjamin, ma première idée, c'était... alors, je connais Casse-Noisette, je le connaissais depuis l'enfance, enfin, donc ça réveillait déjà des souvenirs d'enfance. Et puis, comme j'ai eu fait moi-même beaucoup de livres pour enfants, en fait, j'ai eu envie d'insuffler cet esprit-là à la scénographie, enfin faire en sorte que ce qu'on voit sur le plateau ressemble un petit peu à une page blanche. Donc j'ai créé en fait une boîte scénique blanche, ce qui est ni commode ni courant, dans laquelle évoluent des danseurs qui sont comme des aplats de couleurs devant un décor qui est aussi des aplats de couleurs, le tout très mat en fait, comme si c'était des éléments imprimés sur une page blanche avec une impression un peu de planéité, avec l'idée effectivement de tirer ça très fortement vers l'enfance.
Parce que je suis allée voir des extraits sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas eu la chance de voir votre ballet en vrai.
Oui.
Et c'est vrai que j'ai été saisie par la beauté des décors, cette maison façon Lego, la neige qui tombe, les jouets qui s'animent. Et je me suis dit aussi, quel travail. C'est des mois de travail, des années de travail peut-être aussi, Paul Cox.
Des années, c'est un peu exagéré, mais c'était pas loin d'une année de travail, effectivement, entre la recherche, la documentation, les dessins. Et puis après, le relais est pris par des équipes. C'est un travail en commun avec des équipes absolument géniales de Nice, les constructeurs, les costumiers, les régisseurs. Enfin, c'est un travail qui est non solitaire, mais vraiment collectif.
Et tout est fabriqué à Nice? Vous avez créé ça sur place?
Oui. Tout a été fait à Nice dans les ateliers avec les techniciens formidables, à la fois constructeurs, accessoiristes, costumiers à Nice. C'était un travail génial. J'ai eu grand plaisir à travailler avec eux, tant sur le plan humain que de compétences.
Et est-ce que vous avez pu créer tout ce que vous aviez imaginé, Paul Cox? Ou est-ce que parfois il a fallu faire des compromis, vous dire bon, ça c'est peut-être un peu difficile à faire ou trop coûteux? Est-ce qu'il a fallu revoir un peu ses rêves?
Non. En fait, tout ce que j'avais prévu a été construit, souvent à ma grande surprise, parce que je pensais qu'il y avait des choses qui étaient compliquées. Mais encore une fois, ces constructeurs, enfin tous ces métiers formidables, ont trouvé réponse aux choses qui me paraissaient peut-être les plus compliquées. Je pense qu'au théâtre, rien n'est impossible, au fond.
C'est effectivement un beau slogan, en tout cas. Pontus Lidberg, comment vous travaillez? Une fois que les décors sont là, la musique, évidemment, on la connaît. Est-ce que vous vous dites, voilà, c'est un écrin un peu particulier, il va falloir, avec toute la troupe de danseurs, de danseuses, que l'on s'inscrive dans ces décors-là?
C'est une grande production pour nous. On est 26 danseurs, donc on est... On n'est pas une petite compagnie, mais pas très grand quand même. Donc tout le monde est impliqué, bien sûr. Et on a deux castes aussi, surtout pour les rôles principaux. C'est vrai qu'on a un record de spectacles ici à Nice et un record de vente aussi. Chaque spectacle est complet. Il n'y a même plus des places debout disponibles.
Ah, mais je suis allée voir, c'est archi comble, effectivement, à l'Opéra de Nice, jusqu'à la dernière représentation.
Oui, c'est ça. Et après, on va à Paris, à la scène musicale, justement, du 7 au 11 janvier. Donc, on va continuer juste quelques jours après le Nouvel An. Et si j'ai bien compris, c'est complet à la scène musicale également.
Alors, je crois qu'il reste quelques places. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient aller vous voir quand même. On leur donne un peu d'espoir. Je suis allée voir tout à l'heure. Je crois qu'il reste encore quelques fauteuils. Est-ce que c'est un ballet technique pour les danseurs, Pontus Lidberg?
Oui, c'est très technique. Et en fait, justement, parce que Benjamin, il mélange les choses. Donc, il y a vraiment un côté contemporain qui bouge vraiment sur la scène, qui bouge dans une façon très légère, très et au même temps avec beaucoup d'énergie. Et il y a aussi des côtés très classiques sur pointe, des pas de deux, notamment, qui sont très difficiles, en fait, même si... ils ont l'air de ne pas être compliqués, mais c'est des pas de deux très, très techniques. Donc, pour les danseurs, oui, c'est beaucoup. Et en plus, car on est 26 danseurs, tout le monde danse vraiment beaucoup.
Oui. Est-ce que c'est un rêve pour un danseur de danser Casse-Noisette? Ou est-ce que justement ça peut être un peu impressionnant aussi parce que on a vu tellement de grands danseurs interpréter ce ballet?
Oui, mais je pense que tous les grands classiques, c'est des productions qui les danseurs rêve peut-être à danser, mais ça dépend aussi, bien sûr, des rôles. Parce qu'il y a, par exemple, il y a la fée Clochette, le prince. Dans la version de Benjamin Milipi, il y a aussi des parents de Clara, qui est la
petite fille.
Oui, la petite fille. Il y a des parents qui sont importants. Il y a des rôles qui sont, bien sûr, qui sont plus importants. Normalement, c'est les rôles qui font rêver.
Vous n'avez pas manqué de volontaires, c'est ce que je crois comprendre de vos propos. Paul Cox, est-ce que c'est le premier opéra pour lequel vous fabriquez des décors, ou est-ce que vous avez une longue expérience derrière vous déjà avant ce Casse-Noisette ?
Non, ça a été le deuxième, le premier important. J'avais fait auparavant, il y a bien longtemps, une histoire du soldat de Stravinsky, mais c'était ma première grosse scénographie, en même temps que ça a été la première grosse production pour Benjamin, il y a une vingtaine d'années. Et puis, par la suite, on ne s'est pas quitté de vue, on a fait pas mal d'autres projets ensemble, de ballet, on a fait un Petrouchka, des Sylphides, de Le Spectre de la Rose, plein de choses. Et puis de mon côté, j'ai fait aussi des scénographies pour l'opéra ou pour le théâtre.
Est-ce que vous avez le sentiment que les moyens sont toujours là, Paul Cox ? Parce que quand on voit vos décors, on se dit, il y a la volonté en tout cas de faire un très bel écrin pour ce ballet. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que des projets comme celui-ci sont plus difficiles à monter ?
Écoutez, non, parce que dans celui-là, c'est peut-être un peu abusé de dire ce que je vais dire, mais il n'y avait pas vraiment de grosses contraintes budgétaires annoncées, même si je sais que c'est toujours une réalité. Mais il y a eu d'autres cas, où d'emblée l'extrême limitation budgétaire était annoncée. Et donc, loin de rendre les projets difficiles, ça peut être très stimulant aussi de jouer avec ces contraintes-là, de faire un projet pauvre, ou avec les moyens du bord.
On va faire travailler notre imagination, c'est ça.
Oui, comme on sait, la contrainte est toujours fertile. Ouais.
Pontus Lidberg, est-ce qu'il y a la volonté aussi d'aller chercher un nouveau public ? Qu'oserait pas forcément venir voir une création contemporaine, parce que Casse-Noisette, on connaît, ça nous évoque des souvenirs, on a tous en tête la musique de Tchaïkovski, en tout cas certains airs. Est-ce que l'idée, c'est de faire quelque chose de plus accessible ?
C'est un peu particulier, Casse-Noisette, parce que c'est un ballet qui rassemble tout le monde, les familles, les personnes qui découvrent le ballet et les fidèles. Et en même temps, pour nous, pour le ballet de l'Opéra de Nice, c'est un geste, un grand classique qui relie la compagnie et la ville, mais qui donne, j'espère, de l'élan pour la suite de la saison. Parce qu'on a des projets à venir qui sont... j'espère qu'ils sont sublimes.
Donc,
c'est vrai que Casse-Noisette, c'est plus facile à faire venir les gens. Mais oui, le but, bien sûr, c'est pour donner
l'envie de revenir.
L'envie de revenir.
J'ai cru comprendre qu'il y avait une version gratuite qui était offerte à l'Opéra de Nice le 1er janvier. Pontus Lidberg, est-ce que c'est le cas ? Après les représentations jusqu'au 31 décembre, une représentation un peu spéciale ?
C'est exactement ça, c'est gratuite et c'est au lieu où c'était toujours un concert du 1er janvier, nouvel an, mais avec les danseurs. Donc c'est l'orchestre et le danseur. C'est pas Casse-Noisette exactement, c'est une version réduite, c'est gratuit et...
Et on peut encore s'inscrire, on peut encore venir, comment ça se passe ?
En fait, je ne sais pas. J'imagine que ça va être complet, mais peut-être il y a des places.
Bon, on va demander aux gens, en tout cas, que ça intéresse d'aller voir sur le site de l'Opéra de Nice. Un mot de la scène musicale, puisque c'est la deuxième étape de ce Casse-Noisette que vous avez créé tous ensemble. À partir du 7 janvier, ça veut dire que les décors, Paul Cox par exemple, ils vont partir de Nice à Boulogne-Billancourt ?
Eh bien oui.
Ça paraît compliqué. J'imagine que
ça paraît effectivement compliqué. Oui, ça sort de l'opéra par un petit monte-charge dans une petite rue, dans un immense camion, ou je crois trois immenses camions. Et puis ça prend la route. Oui, c'est toute une aventure.
J'imagine. Et est-ce que la salle est de même dimension, la scène musicale ? Est-ce qu'il va falloir réadapter des choses ? Ou est-ce qu'à chaque fois, d'ailleurs, dans une salle différente, on crée un spectacle qui est un peu différent ?
Eh bien, là, la différence est extrême parce qu'on passe d'une ouverture de scène de 12 mètres, je crois, à Nice, à près de 20 mètres à la scène musicale. Donc, on adapte effectivement le décor. Oui, ça demande pas mal d'adaptation, effectivement. Enfin, les objets solides ne changent pas, mais leur disposition sur scène demande pas mal de réflexion.
Et ça va demander, Pontus Lidberg, aussi aux danseurs de s'adapter, de réinventer aussi ce ballet ?
Oui, en fait, c'est pas trop compliqué, parce qu'on a l'habitude quand même de changer les scènes. Donc, bien sûr, il faut placer les danses un peu différemment. Il faut bouger plus sur la scène musicale parce qu'on a plus d'espace. Mais moi, je ne suis pas inquiète.
Bon, on entend les klaxons derrière. C'est peut-être les camions alors qui se préparent pour les décors de tout à l'heure, dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a aussi, Pontus Lidberg, le plaisir de montrer le talent de votre troupe, des 26 danseurs et danseuses qu'on évoquait tout à l'heure, aux spectateurs parisiens ?
Bah oui, bien sûr. C'est la première fois dans l'histoire de la compagnie que nous sommes invités à Paris. Donc je suis très fier et nous avons tous très hâte de danser à Paris pour la première fois. Donc c'est important.
Oui, parce qu'on parle souvent de l'Opéra Bastille, de l'Opéra Garnier, mais c'est important de montrer aussi qu'il y a des institutions en région qui font des belles créations, qui font de belles choses. On l'oublie peut-être un peu trop, Pontus Lidberg.
Oui, en fait, Paris, c'est comme Londres, New York, c'est peut-être plus parce que c'est une ville avec des spectacles qui viennent de partout dans le monde, en fait. Mais c'est vrai que pour nous, à Nice, qui est en France, c'est très important parce que c'est pas que Paris, c'est en fait on va danser pour tout le monde à Paris.
Paul Cox, un dernier mot justement, parler de la volonté d'ouvrir l'opéra à un nouveau public, de faire revenir aussi des gens qui n'avaient peut-être pas accès à l'opéra ou qui n'osaient pas pousser la porte. Est-ce que c'est aussi ça que vous souhaitez avec ces décors très pop, très très modernes, très acidulés?
Oui, enfin, ça ne m'occupe pas l'esprit pendant que je les crée, mais au fond, fort aussi de mon habitude de faire des livres pour enfants, j'ai toujours un petit peu cette idée quand même de faire des choses qui puissent leur plaire. C'est pas le but premier, mais c'est jamais vraiment absent de mon esprit.
Quand ça marche, c'est pas mal aussi, on va dire ça. Merci à tous les deux. On vous souhaite très belle dernière représentation, évidemment, à l'Opéra de Nice. C'est jusqu'au 31 décembre, la représentation réduite, gratuite du 1er janvier. Et puis je précise, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il reste quelques places pour les représentations à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Faut pas tarder quand même. Et ce sera du 7 au 11 janvier prochain. Merci à tous les deux. Tout de suite, le feuilleton. Et c'est une sélection des meilleurs épisodes diffusés au cours de l'année 2025 que nous vous proposons d'écouter tout au long de la semaine, avec une étape aujourd'hui à Dijon, où avait lieu en octobre dernier le festival d'art urbain Banana Split, la ville devenue une galerie à ciel ouvert avec des fresques de street art à découvrir un peu partout, voilà, qui embellit le centre-ville historique, encore les habitants, la municipalité ou encore les artistes rencontrés par Victor Vasseur.
Avoir une bombe de peinture, c'est là qu'il pense. Avoir une bombe de peinture, c'est vraiment marrant, c'est avoir un gros feutre, quoi. Tu vois, t'es gamin, tu dessines sur une feuille, tu fais ton dessin, mais en fait, là, t'as une bombe et tu peux le faire à un grand dessin. Il y a un tracé qui est vraiment cool, tu peux faire des trucs hyper nets, des trucs hyper flous. C'est le pouvoir de pouvoir imposer un dessin aux gens. Je m'appelle Yannick, j'ai 51 piges, je fais du graffiti depuis que j'ai 16 ans. Donc c'est vraiment un truc qui me passionne de ouf depuis un moment. Et aujourd'hui, j'en fais encore. C'est être un ado encore à 50 balais, quoi. Peindre sur un mur, c'est quand même un vrai délire. Depuis que j'ai 15 ans, je monte à Paris, je regarde les murs. Et j'arrive dans une ville, je regarde les murs, notamment en train. Quand on arrive en train, les voies ferrées ont toujours été des super vecteurs de murs de graffiti, quoi. Et quand je vais dans une ville, la première chose que je fais quand j'arrive dans la ville, en fait, c'est que je me mets à la fenêtre, je me cale et je regarde le style de grave de la ville. Je regarde déjà s'il y a des graves dans cette ville et je regarde comment ça vit sur les murs avant même de poser le pied dans la ville. Donc, c'est déjà une première approche, en fait. Ça, pour moi, c'est devenu une approche, quoi.
J'avoue que je vais dans différentes villes pour suivre l'évolution de plusieurs grands artistes. Je trouve que c'est fabuleux ce qu'ils font. Moi, c'est Annie et j'ai 67 ans. Ça illumine une ville, ça apporte des thèmes, ça apporte une réflexion. Ça peut être sur l'amitié, ça peut être contre la guerre, on en voit beaucoup hein, finalement. Et surtout un message de paix.
le street art va, ou l'art urbain va modifier un paysage, va changer la perception qu'on peut en avoir. C'est un art de la générosité qui s'offre dans l'espace public. Je m'appelle Christine Martin et je suis adjointe à la culture auprès de la maire de Dijon. L'art urbain, c'est pas de la déco. C'est pas de la déco parce qu'on va pas se dire, quand on entre dans une galerie ou un musée, qu'une peinture, qu'une sculpture, c'est de la déco. L'art urbain, c'est un propos d'artiste, c'est un travail d'artiste, c'est un questionnement sur l'univers ambiant, sur des faits de société, sur, je sais pas, un style particulier. Et j'aime bien ces codes, j'aime bien ces réflexions directes, ces questionnements, la manière dont les artistes vont s'installer et proposer une œuvre qui va venir modifier nos perceptions et nous questionner. D'autres s'y sont mis avant nous, on n'est pas la première des villes à le faire. Les habitants habitantes sont absolument ravis de voir ces œuvres dans l'espace public. Et le fait que désormais on a pratiquement ou presque des cheminements dans la ville qui viennent être ponctués par des œuvres soit gigantesques, soit alors plus discrètes dans leur taille, fait qu'on a une véritable déambulation possible d'œuvre en œuvre et d'artiste en artiste dans des styles qui sont somme toute relativement différents. Contrairement à un musée, on ne va pas faire l'effort entre guillemets, de rentrer à l'intérieur. Contrairement à une galerie, on ne va pas pousser la porte. Là, c'est l'art qui vient à nous, dans la rue.
Tous les épisodes de ce feuilleton consacré au festival Banana Pchit sont à retrouver sur l'appli Radio France.
France Inter. Le 13-14.
13h50, c'est la France et chaque mardi, c'est avec vous, Cyril Petit du journal Ouest France. Vous venez nous raconter ces petites histoires qui en disent long. Alors aujourd'hui, avant de refermer l'année, petites histoires d'animaux qui ont fait l'actualité en 2025.
Et je vous emmène, oui Céline, à Glomel dans les Côtes d'Armor. C'est là, au bord du canal de Nantes à Brest, qu'a été repéré mi-décembre un oiseau, a priori jamais vu en France, un martin pêcheur d'Amérique. Alors, plus grand que son cousin européen, il mesure une trentaine de centimètres. Ouest France le décrit ainsi. Tête grise bleue ardoisée avec huppe ébouriffée, grand collier et ventre blanc. Ce serait une femelle de moins d'un an. Alors on ne sait pas comment elle est arrivée là. Parmi les pistes, l'oiseau a fait une erreur de cap lors d'une première migration ou il s'est posé sur un navire traversant l'océan ou encore une tempête a pu l'emporter. En tout cas, ce martin pêcheur d'Amérique est devenu la star du village breton. Il chasse le matin, se repose l'après-midi et s'offre aux dizaines d'ornithologues venus de toute la France pour le photographier. Pour 2026, on lui souhaite un peu plus de quiétude quand même, mais aussi de résister à ses prédateurs et de ne pas s'ennuyer seul sans ses congénères.
Allez, on reste près de l'eau, Cyril, mais avec un sauvetage.
Le 8 juillet, à Thaon-les-Vosges, un jogger aperçoit un faon en difficulté dans un canal, incapable de remonter les berges bâchées et glissantes. Le coureur prévient deux agents d'Enedis. L'un descend dans l'eau et sauve Bambi. L'animal a été transporté jusqu'à l'orée du bois voisin afin de lui offrir une chance de retrouver son groupe, écrit Vosges Matin. 15 kilomètres plus au nord, à Verdun, en Moselle, c'est Vanille qui a été sauvée des flammes en septembre par Quentin. Sapeur-pompier et étudiant infirmier. Depuis, il ne se quitte plus. C'est une miraculée, un ange, une boule d'amour, confie-t-il à l'Est républicain. Clin d'œil d'ailleurs à tous les pompiers sauveteurs d'animaux. Alors palmarès cette année, un teckel sous terre dans l'Oise, un cheval dans un puits dans le Gers, un bouquetin dans la Sarthe et beaucoup de chats, Céline.
Alors justement, puisqu'il est question de chats, vous avez un beau conte de Noël félin.
Il s'appelle Rouquinet. Il a 10 ans, il vit à Gers dans les Pyrénées-Atlantiques. Perdu pendant 8 mois, il vient d'être retrouvé dans un village SPA à une dizaine de kilomètres et sa propriétaire Maryse de préciser dans la semaine des Pyrénées, il a disparu le jour de Pâques et est revenu le 20 décembre. C'est la magie de Noël. Et Céline, je me permets de faire aussi un coucou miaou à Mocha, un matou lyonnais qui, en octobre 2024, s'est fait la belle sur la route des vacances entre Cognac et Cahors. 364 jours plus tard, très précisément, il a été retrouvé et rapporté au cabinet vétérinaire de Montmoreau, lit-on dans Charente Libre.
Allez, on ne va pas faire de jaloux, sinon on va avoir des messages d'auditeurs. On termine par une belle histoire de chien.
Une très belle même Yama, le plus ancien toutou de la SPA de Bergerac, a été adopté. Âgé de 8 ans, il avait passé la moitié de sa vie au refuge. C'est Françoise, une dame de 80 ans, qui l'en a sorti. À Issy-La Rochelle, elle dit avoir été séduite par sa gentillesse. Il ne me connaissait pas et tout de suite, il m'a fait des lichettes et demandé des gratouilles. Alors je ne sais pas, Céline, si le sanglier gamin fait aussi des lichettes, mais on termine dans l'Orne avec le dénouement dans l'affaire de ce marcassin blessé découvert en forêt par deux enfants en janvier 2023. Adopté par la famille, l'animal sauvage a été élevé pendant un an dans un enclos sans autorisation préfectorale. Reconnu coupable en première instance, la famille avait fait appel dans l'espoir de sauver le sanglier condamné à l'euthanasie. Il y a un mois, la justice a tranché, la famille présente toutes les garanties pour s'occuper de l'animal et gamin vivra. Et on lui souhaite une bonne année.
Évidemment, merci beaucoup Cyril Petit du quotidien Ouest France. Alors on me dit dans l'oreillette que c'était la 100e chronique dans le 13-14 de France Inter.
Il semblerait.
100e de vos chroniques, ça méritait d'être salué. Et on se retrouve bien sûr
avec
en 2026.
Plaisir.
De C'est la France à C'est une chanson avec le deuxième épisode de notre série consacrée à Alain Souchon. Aujourd'hui on réécoute l'entretien que Frédéric Pommier avait réalisé avec le comédien Jean-Paul Rouve. Il a choisi d'évoquer un titre de 1978, le Bagad de l'âne Biwé. Souchon qui l'accompagne depuis qu'il est enfant.
Je l'ai écouté tout môme, mais je pense que je n'avais pas conscience quelquefois des textes, vraiment de ce que ça racontait. Mais ça me plaisait, j'ai aimé cet homme, et en grandissant, forcément, je réécoutais les chansons et je dis « Ah oui, mais ça parle de ça, ah, il y a ça derrière ». Mais j'avais commencé évidemment avec ces chansons qui correspondaient presque à mon âge, quand il chantait « J'ai 10 ans » ou « Allons, maman bobo », des choses comme ça. Puis après, j'ai découvert tout son univers.
C'était un chanteur familial ?
C'était pas un chanteur familial. La famille, c'était plus Brel-Brassens, voilà, et tous les chanteurs populaires. Alors, si je suis complètement exact, ma marraine adorait Alain Souchon. Moi, quand j'avais 10 ans, c'était une jeune femme de peut-être 24 ans, 25 ans. Et donc, elle écoutait Souchon, et je me souviens même d'un voyage en voiture avec elle. Elle me traduisait les paroles, elle m'expliquait les paroles,
le
un petit peu. Le sous-texte que ça racontait, les références.
Tu la voyais pas comme ça, ta vie ? Pas d'attaché caisse quand t'étais petit. Ton corps enfermé, costume crétin. T'imaginais pas, je sais bien. Moi aussi, j'en ai rêvé des rêves, tant pis. Tu la voyais grande et c'est une toute petite vie. Tu la voyais pas comme ça, l'histoire. Toi, t'étais tempête et rocher noir. Mais qui t'a cassé ta boule de cristal? Cassé tes envies rendues banales. T'es moche en moustache, en LED, sandales. Tes cloches en bancal, petit caporal de centre commercial. Tu la voyais pas comme ça, frérot. Doucement, ta vie t'a mis KO. T'avais 8 ans quand tu te voyais. Et ce rêve-là, on l'a tous fait. Dentelle première et premier chapeau. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Tambour binaire et premier sabot. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Dansant Quimper ou Landerneau. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Soufflant tonnerre dans du roseau. C'est pas toi qui es. Dans le bagad de l'âne Biwé.
C'est fou parce que cette chanson, ça raconte exactement ce que moi je ne voulais pas. J'avais des envies d'ailleurs quand j'étais adolescent ou jeune garçon et je voulais pas avoir de regrets. Je voulais pas un jour me dire tu n'as pas eu la vie que tu voulais, tu n'as même pas essayé. Parce qu'on peut aussi ne pas réussir ou changer d'avis, mais au moins essayer. Je ne voulais pas de regrets. Et cette chanson, je vais vous dire, quand j'ai rencontré mon ami qui est devenu mon ami proche, David Fonquino, cet écrivain, il a un amour inconditionnel pour Souchon, mais c'est le cas de beaucoup de gens. Et tout de suite, on est sur cette chanson-là tous les deux, et ça raconte notre vie à tous les deux, ce qu'on vient tous les deux de province, lui voulant être écrivain, moi voulant être acteur, et elle me parle beaucoup, cette chanson.
T'es moche en week-end, t'es mioche qui traîne, loupé capitaine, bateau de semaine, d'une drôle de fête foraine.
Aujourd'hui, vous êtes content de la vie
oui.
que vous avez?
Moi, je suis très content de la vie que j'ai. Je suis très heureux. Quelquefois, c'est dur, hein, mais ça, c'est partout pareil.
Donc, finalement, la promesse que vous étiez faite petit de ne pas être celui auquel s'adresse cette chanson de Souchon, vous l'avez réalisée ?
Ouais, je l'ai réalisée. Mais peut-être qu'elle m'a aidé, cette chanson. Parce que peut-être qu'en fait, ça a été comme une lumière, de temps en temps, qui s'allumait. Quand on veut abandonner, par exemple. Peut-être que j'avais un petit bout de cette chanson qui me disait non, 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 non.
C'est pas toi qui es.
Et vous avez une passion particulière pour les bagades ?
Non, pas du tout. Je me suis pas mis à la cornemuse grâce à Souchon. Non, 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 pas encore. On ne sait jamais, hein, ça peut être une nouvelle passion.
Les confidences du comédien Jean-Paul Rouve au micro de Frédéric Pommier. Frédéric que l'on retrouvera demain dans le 13-14.